Élection présidentielle américaine du mardi 5 novembre. Réserve fédérale des États-Unis du jeudi 7 novembre. Double enjeu pour les actions et les obligations. Dans cette vidéo, première partie. Quels sont les enseignements du fameux cycle présidentiel américain en bourse? Le cycle présidentiel américain penche-t-il en faveur des démocrates ou des républicains? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Donald Trump versus Kamala Harris. Quel impact sur vos actions, vos obligations, l'économie américaine en général. Troisième partie, je regarde mon plan. Oui, en cas de victoire de Donald Trump, quels sont les secteurs qui seraient les plus favorisés. Quatrième partie, mais oui, la Fed, jeudi 7 novembre, c'est la Fed. C'est aussi l'anniversaire, mon anniversaire, mes 42 ans. Parlons de la Fed. Cinquième partie, mise à jour de l'analyse technique sur le S&P 500 et les taux d'intérêt US, c'est parti. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Alors bon, la réponse à qui sera la prochaine présidente des États-Unis sera connue dans la nuit de mardi à mercredi. Alors, les sondages mainstream, les sondages de la Doxa, D-O-X-A, vous savez pas ce que c'est? Tapez Doxa sur Google ou ChatGPT, la définition apparaîtra. Les sondages dans les swing states, ou encore l'approche polymarket, les fonds réels, les paris financiers. Tout ça penche pour l'un ou l'autre des candidats. Il y a des approches plus traditionnelles, comme le cycle présidentiel états-unien. Et oui, il y a un rapport statistique, un lien statistique entre la tendance du S&P 500, et c'est dans les deux sens. Les quatre années du mandat présidentiel états-unien, républicain ou démocrate, tout ça influe sur le S&P 500, mais aussi la performance du S&P 500 joue aussi sur le résultat de l'élection présidentielle. Je vais vous montrer tout ça. Bon, grosso modo, tout le monde a compris l'idée générale, mais tout ça, vous allez voir tout ça, on en parle en amont. Lorsque la nouvelle équipe gouvernementale sera en place, tout sera différent, comme d'habitude. Je me souviens à l'époque, en 2016, quelques jours avant l'élection présidentielle, pléthore d'articles annonçant entre moins 5 et moins 10 si Trump était élu. Bon. Marché avait fait plus 3, bon. Tout ça pour dire que il semble acquis que l'approche de Donald Trump, les réductions d'impôts pour les sociétés, la guerre commerciale, la dérégulation financière, seraient plutôt favorables aux actions et donc défavorables aux obligations. Le programme de Kamala Harris, démocrate, serait plutôt moins favorable aux actions. Mais du coup, des taux d'intérêt qui monteraient moins, peut-être un dollar plus stable, bon, mais au final, il y a le programme et il y a la réalité de la politique économique qui sera mise en place. Et n'oublions pas l'aspect commercial, la guerre commerciale, les tarifs douaniers, la guerre vis-à-vis de la Chine, la zone euro aussi, l'Allemagne, et puis les mesures de rétorsion. C'est bien beau de vouloir lancer une guerre commerciale, mais si en face, ça réagit, au fond, est-ce que cela sera vraiment favorable aux entreprises américaines? Il y a tout ça dont nous allons parler. Fed élection américaine, double enjeu pour les actions et les obligations qui retracent pas mal. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler très en détail ce mois-ci. Alors, vous avez à droite vote here. Alors, bien sûr, nous ici, nous ne votons pas, forcément, mais s'oppose donc, j'ai coupé les visages, hein. Ah, moi, bien sûr, ici, personne ne partage son choix politique ici. Il faut être neutre, factuel. Comme ici, dans cette vidéo, pour être factuel. Kamala Harris, Donald Trump. Une semaine décisive démarre pour vos actions et vos obligations en bourse, avec les élections présidentielles américaines et, on l'oublierait presque, l'avant-dernière décision de politique monétaire de la Fed de l'année, jeudi 7. Et, examinons les toutes dernières probabilités de victoire à l'élection présidentielle américaine. L'impact possible en bourse, la traditionnelle mise à jour de l'analyse technique avec votre serviteur, moi-même. Les cinq parties, je vous les ai données, et donc nous passons à la première partie. Le cycle présidentiel est une théorie. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Ne sautez pas au plafond. Le cycle présidentiel est une théorie qui penche en faveur des démocrates. Ce n'est qu'une théorie, et nous allons l'examiner ensemble. Alors, commençons par lire les choses à gauche, et ensuite interprétons tout ça. Mais oui, cette première partie, où je vais vous parler du cycle présidentiel, le lien entre la performance du S&P 500, les 4 années du mandat présidentiel, et, troisième paramètre, s'agit-il des démocrates ou des républicains? Alors, républicains, oui, là on a les stats depuis 100 ans. Alors, certains diront, oui, mais le parti républicain de Donald Trump n'est pas le parti républicain historique. Mais oui, vous avez raison. Tout de suite, la limite à cette approche. Mais quand même, le cycle présidentiel est une théorie qui penche en faveur des démocrates. Nous allons voir pourquoi. Alors, le cycle présidentiel, c'est la théorie selon laquelle il y a donc un lien, un cycle, un schéma cyclique statistique entre le S&P 500 et les 4 années du mandat présidentiel. Vincent 28, et un lien donc avec le parti au pouvoir. Alors, l'année numéro 1, première année du mandat présidentiel, cette année suit généralement l'élection présidentielle, logique. Les nouvelles politiques commencent à être mises en œuvre, donc c'est ça la différence entre les nouvelles politiques mises en œuvre et le programme. Ça, souvent, c'est très différent. Des deux bords de l'Atlantique, il y a toujours une différence entre le programme, qui est là pour appâter, qui est là pour attirer, qui est là pour influencer le bulletin de vote, et la réalité de la politique économique qui sera mise en place. L'année numéro 2, généralement la plus faible, l'année numéro 3, d'ailleurs on l'a bien vérifié encore, on l'a regardé la performance du S&P 500 depuis 2 ans, est généralement la plus favorable, et l'année numéro 4 est un entre-deux. Alors ce qui est assez intéressant, c'est effectivement lorsqu'on regarde donc les moyennes de performance, première année du mandat présidentiel, deuxième année, troisième année, quatrième année, et qu'il s'agisse donc des démocrates ou des républicains au pouvoir, la première année serait plus favorable aux démocrates. Mais ça, ce sont des moyennes. On s'écarte des moyennes. D'ailleurs, le parti républicain ici, avec ses statistiques de performance depuis plusieurs décennies, est-il comparable à ce qu'est devenu le parti républicain sous Donald Trump? Donc ça, limite, on s'en fiche, c'est ce qui est devant nous. Non, regardez plutôt cet histogramme. C'est intéressant parce qu'il fait le lien. En fait, sur cette page, nous étudions donc l'effet du cycle présidentiel et des partis politiques ainsi que leurs effets sur les performances du marché boursier. Donc les données vont, pour être précis, de 1928 à 2023. Tout ça, lorsque le hall est coché, les données vont de 1928 à 2023. En fait, comme le montre le tableau en haut à droite, le marché performe effectivement le mieux au cours de la troisième année présidentielle d'un mandat de 4 ans. Oh, parfait. La deuxième meilleure année est la quatrième année présidentielle. La pire est la deuxième année. Donc la première année, celle qui est devant nous, est plus incertaine. En réalité, tout l'enjeu est de savoir si le S&P 500 sera en mesure de poursuivre sa tendance haussière, alors qu'il est très cher. Il est très cher, vous le savez. Et je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait il y a 2 semaines, qui revenait assez largement sur cette cherté fondamentale du marché action américain. Maintenant, concentrez-vous sur cet histogramme. Lorsque je titre « Le cycle présidentiel est une théorie qui penche en faveur des démocrates », vous avez ici un graphique qui vous montre la probabilité que le parti au pouvoir, donc actuellement ce sont les démocrates, gagne l'élection selon le comportement du S&P 500, 1 an avant, 6 mois avant, 3 mois avant, 1 mois avant. Alors, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que depuis 1 an, que depuis 6 mois, que depuis 1 mois, même d'ailleurs depuis 1 mois, nous sommes là début novembre, donc prenons début octobre c'était là. Alors, depuis début octobre, c'est légèrement positif, mais tout d'accord avec moi pour dire que nous avons une superbe tendance haussière que j'ai accompagnée avec vous à l'aide des vagues d'Elliott et je mets à jour mon analyse technique en fin de vidéo. Donc, si l'on suit les enseignements dits du cycle présidentiel, la performance étant haussière depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis un an, et légèrement haussière depuis un mois, vous pouvez voir que les probabilités sont en faveur d'une victoire du incumbent party, du parti actuellement aux affaires, le parti démocrate. Reste que cette élection présidentielle, tout le monde sait qu'elle est différente. Joe Biden s'est retiré, Kamala Harris est arrivée, elle fait son trou. Tout le monde sait aussi que le parti républicain de Donald Trump n'est pas le parti des républicains de Bush, de Reagan. Bon. Cela étant dit, l'approche en termes de cycle présidentiel et le comportement du S&P 500 ce dernier mois, ces trois derniers mois, ces six derniers mois, il y a un an, est favorable aux démocrates. Mais vous allez voir tout de suite qu'une seconde approche n'est pas du tout favorable aux démocrates. Alors Kamala Harris versus Donald Trump, honneur aux dames, quel impact envisager sur les tendances boursières? Je vous ai préparé un tableau qui va apparaître ici, qui vous donne vraiment, ce sont les grandes lignes. Hein, je suis rentré dans les détails dans le prochain slide, en ce qui concerne les secteurs du marché action. Mais l'idée, je vous résume ici, l'idée générale que la doxa financière, que la doxa de la haute finance se fait de l'impact probable d'une victoire de Trump et de Kamala Harris sur le marché action et le marché obligataire. Le marché obligataire, on va parler des taux d'intérêt, mais vous savez que le prix des obligations exprime sa corrélation inversée avec la tendance des taux d'intérêt du marché, eux-mêmes drivés par les perspectives de politique monétaire des banques centrales. C'est pourquoi d'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons aussi parler de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis ce jeudi 7 novembre. Voilà ce que pense la doxa. Le programme de Donald Trump favorise une approche pro-business. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le programme. Des réductions fiscales. Effectivement, donc, la principale différence dans le programme budgétaire entre Kamala Harris et Donald Trump, ce sont les réductions fiscales. Alors, Donald Trump, bien sûr, veut réduire les impôts. N'oublions pas une chose, les deux parties vont être confrontées à un gros problème. À celui-ci. L'énormité de la dette publique américaine, qui représente actuellement 122% du PIB, ça c'est en 2023. Vous savez que la dette publique, dans sa tendance haussière ici, alors exprimée en pourcentage du PIB, est nourrie par l'addition des déficits budgétaires. Et en termes de déficit budgétaire, c'est pas mieux que la France. Bon, bien sûr, on ne peut pas forcément comparer les choux et les carottes, on ne va pas comparer l'économie états-unienne à l'économie française, mais tout de même, ce sont deux pays qui ont du mal à se remettre de la trajectoire de dérapage budgétaire de la crise sanitaire, et les États-Unis affichent et vont encore afficher, jusqu'à la fin de la décennie, un déficit budgétaire chaque année entre 5 et 7%. C'est énorme. Ce déficit budgétaire nourrit l'augmentation de la dette publique en version absolue. Alors ici, là, ça ne monte plus parce que c'est la dette publique en version relative. Ici, c'est la dette publique sur le PIB. Numérateur sur dénominateur, dette publique sur PIB. Mais tout de même. Alors, la difficulté, c'est que le déficit budgétaire est très élevé. Donald Trump envisage de réduire les impôts, donc moins de recettes fiscales. Donc, la doxa se dit que cela aura un impact haussier sur les taux d'intérêt, et donc plutôt baissier sur les obligations. Et au final, le marché action serait soutenu davantage par une victoire de Trump, essentiellement par la baisse fiscale, et aussi par la dérégulation. Et ça, ce fut mis en place sous la première présidence de Trump, qui sera peut-être la seule d'ailleurs, j'en sais rien, en tout cas celle qui a eu lieu entre 2016 et 2020, avec une dérégulation financière qui a été hyper favorable au secteur des banques et des assurances en bourse. D'ailleurs, de manière générale, la haute finance se fait l'idée que le marché action sera soutenu par les baisses d'impôts, par la dérégulation, en particulier le secteur financier, en particulier aussi le secteur des crypto-monnaies. Vous savez que Donald Trump envisage de créer une réserve stratégique de Bitcoin et de faire des États-Unis le pays numéro 1 pour les cryptos et la blockchain. C'est dans son programme, soutenu par Kennedy, soutenu par pas John Fitzgerald, hein, et soutenu par M. Elon Musk. Alors au contraire, du côté de Kamala Harris, forcément, pas de baisse d'impôts. Par contre, de la dépense publique, des hausses d'impôts, de la dépense publique. Les deux parties seront, de toute façon, confronté à la même situation en termes de dette publique et de déficit budgétaire. La différence est du côté Kamala Harris, hausse des impôts, hausse de l'impôt sur les sociétés, pour financer par contre des dépenses budgétaires qui sont probablement plus importantes que Trump. Donc au final, en matière d'obligations, c'est plus incertain. Ce sont les principales différences. Et puis n'oubliez pas la dimension commerciale. Et c'est là aussi où moi je parfois je dis les choses sont pas si simples. Moi, si quelqu'un me dit Trump est élu, ça va soutenir le marché action, je lui dis tout de suite, mais cher ami, regarde ce que fut la politique commerciale agressive de Trump lors de son mandat 2016-2020 et les mesures de rétorsion prises notamment par la Chine, qui au final ont presque eu un impact négatif sur les entreprises américaines. Et donc, in fine, pas positif sur le marché action. Donc, il y a énormément de paramètres. Du côté de Kamala Harris, s'il n'y a pas un affrontement commercial massif avec la Chine et les principaux partenaires commerciaux avec lesquels les États-Unis sont en déficit budgétaire, en déficit commercial, les choses pourraient être plus calmes et peut-être moins inflationnistes. Et si la politique économique de Kamala Harris est moins inflationniste, vous savez, nous sommes encore en lutte contre l'inflation. Certes, elle tend vers la cible de la Fed. Mais rappelle que l'inflation sous-jacente est quand même encore largement au-dessus. Donc, alors, nous avons vu, donc ici vous avez, voilà, vous pouvez lire le tableau, hein, mais concrètement, la principale différence se fait du côté du marché action en lien avec les baisses d'impôts et la dérégulation. Maintenant, nous avons vu juste avant que le cycle présidentiel était favorable aux démocrates. Par contre, d'autres approches qui sont très différentes des sondages mainstreams sont plus favorables à Donald Trump. Par exemple, les informations en provenance de Polymarket, qui sont des cotes financières ou financières, c'est basé sur de l'argent réel. Ça peut être truqué, ça peut être influencé, ça peut être manipulé par des faux paris, mais il n'empêche que là, il semble avoir un gap favorable à Donald Trump. Donc, ce sont deux approches, cycle présidentiel favorable aux démocrates en lien avec ce que fut la performance du S&P 500 depuis un an, depuis six mois, depuis trois mois, depuis un mois, et ce que semble donner comme information Polymarket. Bon, la réponse de toute façon sera connue dans la nuit de mardi à mercredi. Mais c'est assez intéressant parce que moi je me souviens très bien que lors de l'élection présidentielle de 2016, vraiment, tout le monde pensait que l'élection de Trump serait défavorable au marché action. Le jour J, ça a fait plus 3 et pas moins 5. Bon, là, nous verrons bien. Mais effectivement, au moins à court terme, du fait de la baisse de l'impôt sur les sociétés, effectivement, on peut envisager que, dans un premier temps, cela apportera un soutien au marché action. Après, tout va dépendre de la politique économique, tout va dépendre surtout de la partie commerciale. Qu'est-ce que Trump prépare en termes de guerre commerciale contre la Chine ? Qui, elle, est en pleine phase de mesures de relance. Alors justement, faisons de la prospective. What? Et si, donc, si Donald Trump était élu, quels seraient les secteurs les plus favorisés par une victoire de Trump? Je pense avoir rassemblé ici des secteurs qui seraient soutenus par une victoire de Trump. Secteur de l'énergie, en particulier les compagnies pétrolières et gazières. Trump a soutenu historiquement les industries de combustibles fossiles et pourrait pousser pour une augmentation de la production nationale et une réduction des réglementations environnementales. Encore une fois, cet aspect vraiment cher au parti républicain de Donald Trump, qui est la déréglementation. Bon, défense aérospatiale, je ne vous fais pas un dessin. Finance et crypto-monnaie, bon, Trump s'est exprimé 1000 fois. Son colistier a annoncé même la valeur de son portefeuille Bitcoin. Elon Musk est avec lui. Bon, le Dogecoin, bon, enfin, tout le monde a compris. Certains pensent la réserve stratégique de Bitcoin, la déréglementation financière, banque assurance crypto, en cas de victoire de Trump, vous allez voir, la tendance haussière va se poursuivre. Car oui, ce sont déjà des secteurs en tendance haussière, je vais vous montrer comment les suivre. La construction, avec Trump qui a exprimé son soutien à des projets d'infrastructure à grande échelle, industrie pharmaceutique et santé, l'industrie en fait au sens large, America First, les politiques du type America First, là c'est pareil. Ça va se traduire, l'industrie au sens large, par la politique de tarifs douaniers. Mais quel sera l'impact des mesures de rétorsion que vont mettre en place notamment la Chine et l'Allemagne, car ces deux pays ne se laisseront pas faire. Et bien sûr, la cybersécurité. Alors, ces secteurs, comment les suivre? Lorsque vous êtes sur TradingView, vous avez ici une section, donc indice, et vous allez dans secteur. Il faut savoir, c'est que les actions du S&P 500 sont rassemblées au sein de 11 super secteurs. Consommation discrétionnaire, consommation défensive, santé, industrie, information technology, matériaux, immobilier, communication services, utilities, financial et énergie. Faites un clic droit ici et vous pouvez donc ouvrir, par exemple, j'ai pris le secteur financier. Et sur TradingView, vous avez ensuite les composantes. Et là, vous avez donc, vous pouvez faire un classement par capitalisation boursière de toutes les actions qui composent ce secteur financier. Ce qui vous permet d'avoir en priorité ici des valeurs à les regarder sur le plan technique. Et simplement, vous pouvez aussi faire l'analyse technique de ce secteur. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, vous allez voir que le Trump Trade, ce sont les spéculateurs jouent à fond, en fait, cette arrivée au pouvoir de Donald Trump. Lorsque vous regardez le secteur de la finance, regardez, il est déjà en forte tendance haussière. Il n'y a pas de divergence, ce secteur des valeurs financières. Alors, effectivement, en cas de défaite de Donald Trump, tous ces secteurs qui ont fortement monté dans l'hypothèse où Donald Trump serait élu, vont subir au moins à court terme des prises de profit. Soyons clairs, si Donald Trump perd l'élection, c'est même pas la victoire de Kamala Harris qui est un problème. Elle a plutôt une approche neutre vis-à-vis des actifs risqués en bourse, des cryptos et du marché à actions. Mais par contre, il y a tellement une pari haussier sur ces secteurs-là en lien avec une victoire probable de Trump qu'au moins la première quinzaine de mois de novembre, ça va souffrir en cas de défaite de Trump. Bitcoin va retracer, le secteur financier aussi, et à partir de mi-novembre, ça va stabiliser, ça repartira en tendance haussière. Donc il faut être prêt à tout ça. De la même façon, les actions du secteur de la défense, j'ai eu l'occasion de vous les montrer plusieurs fois, et je vous ai même proposé ici de créer une liste, notamment donc les grands acteurs de la défense aux États-Unis. Ce sont des actions qui ont fortement monté, alors en lien bien sûr avec les conflits géopolitiques, qui retracent à court terme parce qu'ils ont atteint des niveaux de résistance et qu'ils étaient largement surachetés. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'en cas de victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, les supports techniques vont agir sur ces actions du secteur de la défense. Donc il faut être prêt. Et là, vous avez déjà une première grille de lecture si Donald Trump est élu. Si c'est Kamala Harris, les choses seront complètement différentes. En grande partie, je pense, pour le secteur financier. En lien avec la principale différence entre les deux, c'est les baisses d'impôts ou hausses d'impôts et moins de réglementation, plus de réglementation. Voilà, concrètement, lorsqu'on essaie de réfléchir vis-à-vis du marché actions. Alors, bon, nous verrons bien qui sera élu dans la nuit mardi à mercredi. N'oublions pas la fête du jeudi 7 novembre. Et la question du Fed Cut Pass, ça reste quand même une des clés majeures pour la tendance des actions et des obligations en bourse ces 12 prochains mois. Alors, les anticipations de politique monétaire. Alors, ce jeudi 7 novembre, la Fed dévoile une décision de politique monétaire qui ne sera pas accompagnée de mise à jour des projections macroéconomiques, mais il y aura quand même un communiqué de presse et une conférence de presse. Tout l'enjeu est de savoir si la Fed s'inquiète encore du marché du travail ou de la désinflation. Vous avez eu la semaine dernière, et je vous ai fait donc une vidéo la semaine dernière avec qui vous expliquait que c'était une semaine hyper chargée fondamentalement. Vous avez eu, et vous avez tous vu quels sont les chiffres, la mise à jour de l'inflation PCE aux États-Unis, et vous avez eu la mise à jour de toutes les statistiques de l'emploi aux États-Unis, notamment du rapport NFP. Maintenant, place à l'interprétation de la Fed. Et notamment ce qu'on appelle le Fed Cut Pass, quel sera le rythme à venir des baisses de taux de la Fed. De quoi s'inquiète-t-elle où met-elle le curseur, emploi ou inflation? Et ça, l'impact sera majeur. Et d'ailleurs, reprendra très vite le dessus. Dès le 7 novembre, dès l'élection présidentielle connue, dès le président connu ou la présidente, nous repassons sur la Fed. S&P 500 est aux US le point de situation technique hebdomadaire, donc comme je vous propose comme d'habitude. Alors encore une fois, bon, voilà, là, vous regardez la vidéo peut-être lundi, peut-être mardi, C'est pour ça que je voulais faire une vidéo préparatoire, vous montrant quand même les différentes approches, et puis vous donner un premier ordre d'idées, des réactions sur actions-obligations et sur certains secteurs du marché actions. Quant à l'analyse technique du SP500 ou des taux obligataires, ce début de semaine, prenez du recul, prenez de la hauteur, car cette analyse technique, j'ai souvent dit, rappelez-vous, qu'un graphique ne valait rien face à un missile, ça c'est la partie géopolitique. Bon. De la même façon, mardi, mercredi, les graphiques, n'y prêtez pas trop attention. Attendez que la poussière retombe, que le président ou présidente soit connu. Et nous pourrons nous fier, allez, à nouveau au graphique, à partir de la clôture technique hebdomadaire. Donc, un peu de prudence, s'il vous plaît. Néanmoins, tout de même, quelques mots. Alors, bon, comme d'habitude, mon tour d'horizon, multi-time frame. En monthly, vous savez que j'estime que quelque part en 2025, probablement fin 2025, nous finirons par avoir une divergence et ce sera la fin de ce gros cycle d'appréciation qui avait commencé à l'automne 2022. La clôture mensuelle, et là, il n'y a pas de divergence. Attention, en données hebdomadaires, ça diverge. Donc, ça diverge. Attention en données hebdomadaires. Mais je pense qu'en grande partie, cette divergence indique l'incertitude vis-à-vis justement du résultat de cette élection présidentielle américaine. Moi, j'estime toujours que ces 12 prochains mois, nous allons continuer de construire cette vague 5 qui nous mènera au-dessus des 6000 points. Reste à savoir jusqu'où on retrace en amont. En hebdo, il n'y a pas d'alerte tant qu'il n'y a pas de breakout des 5730 points. En réalité, c'est cette zone-là dont je vous parle depuis un certain temps. C'est la zone frontière, pivot. D'un point de vue technique, le marché peut très bien revenir s'appuyer, partir. En fait, le marché peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance haussière n'est pas menacée tant que cette énorme zone support tient. À la fois les 5720-730 qui sont le support daily weekly et ce gap, en fait, et ce gap. Donc, si avec l'élection présidentielle US, le marché se maintient au-dessus de cette zone, qu'elle confirme son statut de support, tout va bien. Une rupture, et ça, retenez-le, cette semaine, à la fin de la semaine, une rupture de cette zone support viendrait activer une dive. Rompre cette zone, c'est tomber à la moyenne mobile à 200 jours. C'est la zone majeure à surveiller. Vous aurez déjà la réponse cette semaine, en regardant du côté donc, de la clôture technique hebdomadaire. Le 10 ans américain qui a fortement remonté. Alors pourquoi ? Parce que toute cette baisse ici avait été liée à des exagérations quant à la probabilité d'une récession américaine tout au long de l'été. Moi, je me rappelle, je vous avais expliqué, c'était du chômage technique. Les taux remontent. Mais vous allez voir que dans 12 mois, ils sont beaucoup plus bas. Ici, ça se retournera. On commence à avoir des dives. Bon, ça devrait faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est une zone ici où le marché se retournera. Et pour le moment, c'est en reprise. Attention à ces premières divergences qui rappellent ces petites divergences courtes ici. Et pour redonner un signal bearish, il faudrait repasser ici sous la moyenne mobile à 200 jours qui reste de toute façon vraiment ce pivot majeur. Voilà, chers amis. Merci pour vos likes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, de toute façon, nous referons cette fois-ci un point synthèse. Lundi prochain, dans le prochain Top Gun, nous aurons le résultat de l'élection présidentielle américaine, la décision de politique monétaire de la Fed, et on refocus, comme d'habitude, sur notre schéma actuel global macro-technico-fondamental. Il n'y aura plus d'incertitudes, on aura les éléments, et on déterminera la tendance de fin d'année. Merci à toutes et à tous.